Radio Air présente
VIP,
l'invité de la rédaction.
Si on dit à son sujet que c'est une vraie clown, on ne se trompe pas. Sans nez rouge et sans maquillage, on découvre aujourd'hui la vraiment intéressante personne, la VIP, qu'est Valérie Létoffé. Bonjour Valérie.
Bonjour Christine.
Ravie de t'avoir à ce micro. D'où est-ce que tu nous arrives aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'arrive de Zurich. Parce que hier soir, je suis allée voir le spectacle du cirque Monty, qui est une petite merveille. Et pour moi, c'est un rendez-vous annuel. Hein. Tous les ans, je vais voir ce spectacle et c'est juste magnifique. Alors voilà, ce matin, j'arrive directement de Zurich.
Donc, on a parlé d'un cirque, on a parlé de clown, on est vraiment dans le sujet. Tu pratiques l'art du clown depuis des années, tu donnes des ateliers, tu fais des spectacles. On va parler un petit peu de tout ça au fil de cet entretien. Tu es née à Lille, dans le nord de la France.
Oui.
Tu as un côté très nomade. Alors, je ne sais pas si c'est la question du cirque ou... Enfin, voilà, on va découvrir un petit peu tout ça. Mais tu as la nationalité suisse aussi. Tu vis en Suisse depuis des années.
Oui.
Coucouli. C'est ton nom de clown. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a le mot coucou,
oui.
Il y a le mot collé quelque part. c'est quoi qui t'a poussé à choisir ce nom-là? Juste parce qu'il sonne bien?
Non, c'est parce que je suis passionnée par le colibri. J'ai bâti mon premier spectacle de clown, La part du clown, à partir d'une légende amérindienne sur le colibri. Et en cherchant un petit peu des noms de colibris et des noms d'oiseaux, je suis tombée sur Coucouli. Et en fait, en Amérique du Sud, il y a une musique qui s'appelle El Canto del Coucouli. Et j'ai trouvé que voilà, ça sonnait très bien. Et le Coucouli, c'est un oiseau, alors si je ne me trompe pas, c'est une espèce de colombe. Oui, qui est très significative en fait. Hein. Et voilà, ça m'a pris pas mal de temps pour trouver un nom de clown. Hein. C'est pas évident.
C'est pas évident, c'est hein, pas j'imagine évident. Bien.
Ça ouais. fait 20 ans que je travaille le clown. Et voilà, ça fait 5 ans que j'ai trouvé ce nom, 6 ans. Donc ouais, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'en suis contente.
Valérie, tu chantes aussi, on l'entendra tout à l'heure. La musique, ça a aussi beaucoup de place dans ta vie.
Oui.
Les soins aussi, tu as travaillé dans les soins. Est-ce que le clown s'intéresse à soigner les gens un petit peu?
Moi, je pense qu'il y a vraiment une forme de thérapie parce que pour moi, une dimension du soin qui est très importante et puis qui manque un peu, je pense, aujourd'hui dans pas mal de systèmes, que ce soit de soins, d'éducation, enfin tout ce qui se rapporte à la relation à la personne. Je pense que justement le lien, la relation, c'est quelque chose qui est très important. Et pour moi, le clown, c'est la relation dans toute sa splendeur. Et c'est voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des clowns d'hôpitaux. Oui, c'est une façon d'entrer en relation avec les gens. Et je pense qu'il y a aussi un côté thérapeutique parce que aller à la rencontre de son propre clown, c'est entrer aussi dans un chemin de guérison quelque part, de guérison de certaines, peut-être de certaines blessures, mais c'est aussi une façon d'entrer dans une façon de vivre qui est plus simple, qui est, bon, où il y a quand même beaucoup d'humour. Et l'humour, on sait bien que ça permet de traverser beaucoup de choses. Mmh. Donc je pense qu'il y a un côté thérapeutique assez développé chez le clown.
On va bien sûr apprendre à te connaître un petit peu plus, Valérie, aussi, à comprendre qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a amené dans l'art du clown. Après, une chanson. Et si on écoutait Claudio Capeo, une chanson qui a du sens pour toi?
Avec grand plaisir.
Tu veux nous expliquer un petit peu pourquoi?
Oui, fidèle à moi-même, c'est quelque chose qui est... très très actuel. On vit dans une société qui n'est pas facile, hein, que ce soit pour nous, pour les jeunes, pour les enfants. Et on est quand même amené à, avec tous les moyens, tous ces réseaux sociaux, tous les moyens technologiques, informatiques, on est amené, je pense, à entrer dans une façon de vivre qui n'est pas toujours, pour moi, en lien avec mes aspirations. Et être fidèle à moi-même, c'est en même temps, ne pas sortir de la société, puisque je vis dans une société et que je veux être proche des gens. Donc, ça serait
paradoxal de
m'en éloigner. Donc, j'essaie d'être au plus proche de ce que la société demande, mais tout en étant fidèle à mes aspirations profondes et puis à mes valeurs. Et donc, cette chanson, je trouve, a beaucoup de sens. Mm-hmm. Et puis, j'aime beaucoup Claudio Capeo, j'aime beaucoup le rythme, sa voix. Et c'est un chanteur qui a écrit beaucoup de chansons qui ont énormément de sens. Donc, avec grand plaisir.
Je souris avec tout ce qui m'arrive, c'est normal. Me direz-vous, car après tout, ça ne durera pas toute une vie. J'irai jusqu'au bout de mes rêves comme un fou. Et ce quel qu'en soit le prix. Qui croit emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire, l'histoire se répète, seul change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles, tôt ou tard je sais, il fera beau. Regarde le ciel, regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Qui reste sans réponse. Faut-il que je ralentisse ou faut-il que je fonce? Sans le vouloir, j'ai l'impression de me perdre, de tomber dans le noir. Qui croit emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire, l'histoire se répète, seul change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles, tôt ou tard je sais, il fera beau. Regarde le ciel, regarde loin. Tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Regarde le ciel, regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Qui part emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai ou plutôt si je suis dans le faux.
C'était Claudio Capeo, fidèle à moi-même, fidèle à elle-même aussi, une autre vraiment intéressante personne aujourd'hui, Valérie Létoffé, alias Clown Coucouli. Un joli nom qui sonne vraiment comme un petit chant d'oiseau d'ailleurs. Tu nous expliquais
exactement.
Que c'était un petit peu l'origine de ce nom que tu as mis un certain temps à trouver. Alors, comment est-ce que tu es entrée en fait dans cet art du clown ?
Alors, c'était en 2005, par hasard, on m'a proposé de participer à un week-end sur la rencontre de son propre clown. Alors, j'y ai participé en toute curiosité parce que c'est vrai que depuis petite, j'ai été passionnée par le cirque, par, les clowns, mais le cirque en général, les arts circassiens, les arts de la rue. Et puis, l'humour, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Et j'aime beaucoup rire, j'aime faire rire. Et puis, donc, la découverte de ce stage, qui a duré un week-end, m'a ouvert à vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Et puis, j'ai fait un deuxième stage, un troisième, un quatrième. J'ai fait beaucoup de stages, de formation. Et puis, il y a quelques années, je me suis lancée dans l'écriture d'un spectacle avec un metteur en scène de l'Académie Dimitri. Et je me suis aussi lancée dans la formation. Je donne aussi des sessions à la découverte de son clown intérieur, en lien avec la foi chrétienne. Voilà.
Donc, en fait, une validation de ce statut, ou en tout cas cette professionnalisation
oui.
de l'art du clown, tu l'as passé ?
J'espère. Je dirais que ça serait peut-être un peu... Je ne veux pas me lancer des fleurs et puis me mettre en avant. Donc, je reçois ce qu'on me dit et quand on me dit que voilà, maintenant je suis de ce côté-là, du côté du spectacle, et puis que mes sessions apportent quelque chose, je peux que dire merci en fait et m'en réjouir.
Oui, et puis voilà aussi, c'est ton gagne-pain. Hein, tu gagnes ta vie aussi de cette façon-là.
Tout à fait. Hein, voilà, donc, tout à fait. Oui.
Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur qui circule là.
Non, non.
Alors Valérie, c'était une découverte de toi-même en fait, au travers de ce premier stage. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais il y a quand même... Découvrir le clown en soi, c'est pas rien.
C'est pas rien, et je dirais que ça prend des années. Mm-hmm. Ça prend des années parce que c'est un travail en profondeur. C'est pas, on découvre petit à petit que c'est pas faire le clown, mais que c'est être clown. Et que c'est très différent parce que faire le clown, c'est faire une animation, c'est jouer un rôle. Alors, je dénigre pas du tout. Hein. Moi aussi, je fais des animations. J'aime les sketchs. Il y a des spectacles de clowns théâtraux qui sont magnifiques et que j'aime énormément. Maintenant, les sessions dans lesquelles j'ai découvert cette forme de travail du clown et puis que j'essaye de donner maintenant aussi, c'est plus une découverte d'une autre façon d'entrer en relation avec le public. Et peut-être aussi un art de vivre. C'est une façon de regarder les choses différemment. Et c'est vrai que dans pas mal d'événements dans ce que je vis au quotidien, souvent, tous les jours, je me dis, OK, là, c'est Valérie qui réagit, mais comment est-ce que Koukouli prend les choses? Et c'est vrai que dans des situations difficiles, ça aide. Parce que ça permet de prendre du recul et puis de simplifier les choses. Et dans beaucoup de situations, de rencontres avec des personnes, même que je ne connais pas, ça m'aide à... Bon, je ne suis pas de nature timide, mais ça m'aide à me dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers telle ou telle personne, en fait? Qu'est-ce que je risque? Et le clown ose tout, en fait. Et il n'y a pas peur de prendre des risques parce que c'est risqué d'être toujours plus vivant, quoi. Et donc, quel beau programme pour ma propre vie.
Mmh. On va prendre le temps d'écouter justement une valse, la valse à Moby Dick. Je trouve qu'elle va parfaitement bien. C'est donc toi qu'on va entendre chanter. Oui. Le texte est de toi aussi. Enfin, il y a tout de toi là-dedans.
Oui.
Il y a ton sens de l'humour. Il y a ton sens aussi d'une certaine autodérision. Oui. Il y a aussi un sens d'observation de notre monde.
Tout à fait.
On l'écoute ensemble. On en parle juste après.
Volontiers.
Le réchauffement climatique. À ça devient sympathique, l'été deviendra mythique, les chaleurs astronomiques, plein air et l'eau océanique, un jacuzzi moussant pour Moby Dick, la steppe et la toundra nordique, une forêt vierge pour les moustiques. Pour le porc épic, pas que les tropiques. Et toute l'année, le bikini pour Monique. Pour les alcooliques, coma éthylique. Et pour tout le monde, feu de joie atomique. Le réchauffement climatique. À ça de bien sympathique, l'été deviendra mythique, les chaleurs astronomiques, les pieds dans l'eau et dans le frigo, les bonobos iront vivre à Bordeaux, la baleine bleue, le cachalot, sur le Léman feront du pédalo, pour le porc épic, pas que les tropiques. Et toute l'année, le bikini pour Monique, pour les alcooliques, coma éthylique, et pour tout le monde, feu de joie atomique.
La valse à Moby Dick, c'était la voix de Valérie Létoffé et le chant de Valérie Létoffé, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. Elle est fantastique, cette chanson. Franchement, c'est savoureux, c'est rime. Et puis en même temps, il y a quelque chose de terriblement grave derrière, mais en même temps, tu le traites avec ce recul, un petit peu prendre un petit peu de hauteur, comme tu disais tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors, cette chanson, je l'ai écrite avec mon metteur en scène, justement, Emmanuel Pouilly. On l'a écrite ensemble lors de l'écriture de mon spectacle, La part du clown. si je remonte un petit peu à l'origine de cette écriture, il existe une légende amérindienne qui s'appelle la légende du colibri. Et cette légende du colibri raconte l'histoire d'un feu de forêt en Amazonie, durant lequel tous les animaux s'enfuient parce qu'ils ont peur, ils sont complètement effrayés. Seul le petit colibri reste et puis va chercher quelques petites gouttes d'eau qu'il jette sur le feu. Alors, ça agace le tatou, hein, qui est un animal qui lui dit « Mais t'es fou, tu crois que tu vas éteindre un feu de forêt avec quelques gouttes d'eau ?» Puis il lui dit « Non, mais je le sais, mais je fais ma part. Mm-hmm. » J'ai trouvé cette légende juste incroyable, très actuelle et universelle. Et puis, j'ai lu un livre de Pierre Rabhi qui s'intitule « La part du colibri ».
La part du, justement, hein, qui a été mondialement connu aussi.
Exactement.
À cause de ça. Hein.
Et qui est juste incroyable. Mmh. Et je me suis dit, il faut que je fasse un spectacle de clown en lien avec cette thématique. Et donc, on a écrit ce spectacle qui s'appelle « La part du clown », qui traite du changement climatique, mais vu par un clown. Donc, ce n'est pas moralisateur, ce n'est pas catastrophique. Mais on essaye quand même d'attirer l'attention sur le fait que respecter l'environnement et respecter l'autre, respecter les cultures différentes, bah c'est quand même un sujet d'actualité qui est hyper important et je dirais primordial. Et cette chanson de la valse à Moby Dick, bah justement, c'est une façon un peu humoristique de mettre en musique cette thématique du spectacle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que comme les rimes sont en hic, quand je commence la chanson au cours du spectacle, tout de suite les gens chantent hic hic. Alors c'est génial parce que bah, je leur demande si, mais c'est incroyable, vous connaissez la chanson. Et puis voilà, ça amène
ça, la connexion
de la légèreté,
directement.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est léger. Ouais, j'aime bien cette forme d'humour. Puis voilà, en fait, un petit peu l'histoire de cette chanson.
De cette chanson-là. Tu parles de cette conscience du changement climatique, enfin voilà, de la conscience aussi qu'on vit sur cette planète, c'est chez nous, mais en même temps, c'est, voilà, on doit en prendre soin de ce chez nous.
Oui.
Et d'ailleurs, tu vis dans une roulotte.
Oui.
C'est ton style de vie, enfin,
oui.
Juste à côté d'une maison.
Oui.
Et tu as cette proximité de la nature, c'est super important pour toi.
C'est hyper important pour moi d'avoir une vie de simplicité. Bon, quand on travaille dans le milieu artistique, on est amené à avoir pas mal de matériel. Et puis, ben pour moi, de ne pas avoir une surabondance de choses, d'avoir le matériel dont j'ai besoin pour mon travail, c'est important. Mais à côté de ça, d'avoir une vie simple, et puis proche de la nature, c'est tellement ressourçant. Ben oui, c'est quand même ce qui nous fait vivre, hein, la nature. C'est la création. Il faut en prendre soin. Et puis, pour moi, d'y être plongé, j'ai la chance de vivre dans un environnement qui est juste magnifique, qui est au pied des Alpes, et qui me donne envie déjà de dire merci, et puis de respecter. Et c'est vrai que ça me fait mal quand je vois cette destruction massive, hein, un peu destruction de la planète, destruction de l'être humain. Ça me fait mal, vraiment.
D'où le soin aussi que tu portes à la relation. Valérie, tu animes des stages clown et foi,
oui,
pour découvrir le clown, hein, qui sommeille en nous, comme
tout
tu l'as
fait.
Dit. La foi, comment elle s'est activée ou allumée en toi? Ça fait longtemps?
Alors, je pense que je suis née avec. J'ai eu cette chance, c'est un cadeau qui m'a permis de traverser beaucoup de choses et qui m'a... Oui, c'est quelque chose qui... Ça fait pleinement partie de ma vie, de mon quotidien. Et faire un lien entre le clown et le Christ, c'est devenu comme une évidence qui peut choquer parfois, mais qui est vraiment réelle. Et quand on creuse un petit peu les textes bibliques, et puis quand on travaille le clown en termes d'âme relationnelle, on peut y voir que des parallèles avec le Christ, avec Jésus, en fait. Et c'est passionnant. Moi, ça me passionne de plus en plus.
Est-ce que tu dirais, en regard de ce que tu viens de nous dire, Valérie, que aider quelqu'un à découvrir le clown qui sommeille en soi, est-ce que ça pourrait être aussi découvrir le Christ qui serait là en nous? J'espère que ce n'est pas dogmatique comme question, parce
non,
que
non,
c'est vraiment une question sincère.
Oui, et puis je pense que de toute façon, moi je tâtonne aussi, hein. Je n'ai pas des réponses toutes faites, j'apprends à mesure. Et ce que je dirais peut-être, sans avoir, encore une fois, sans avoir une réponse absolue, je pense que dans chaque être humain, il y a une quête spirituelle, quelle qu'elle soit. Après, ben voilà, il y a des personnes qui le reconnaissent, il y en a d'autres qui disent que pour elles, ce n'est pas important. je le respecte tout à fait. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même une soif ou une quête de quelque chose. Et aller à la rencontre de son clown intérieur, c'est aller à la rencontre de son moi profond qui est, je dirais, nu. Mais nu, pas dans le sens érotique ou physiologique, mais nu de tous les titres et de toutes les étiquettes qu'on peut mettre dans la société. Mmh. Et donc, c'est mon moi humain, profondément pauvre et donc riche, profondément spirituel et profondément petit. Et pour moi, d'aller à la rencontre de ce moi intérieur, bah, c'est me reconnaître vulnérable et en même temps dans l'attente de tout ce qui vient de Dieu et de tout ce qui vient de l'autre, des autres. C'est pas évident de le dire en quelques phrases comme ça, mais je pense que travailler le clown et le mettre en lien avec sa foi, c'est aller vers quelque chose de profond en soi qui, oui, qui rejoint en moi celle qui a besoin des autres. Et pour moi, c'est... Je dirais que si je devais enlever dans ma vie tout ce qui compose mon quotidien, je garderais juste ce désir de soigner la relation. Et pour moi, alors peut-être que le clown, c'est un moyen, c'est un outil, mais c'est ce qui correspond le plus à ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire tout attendre de l'autre et de la relation. Ah, c'est des grandes phrases, hein, ça paraît être des grandes théories, mais quand je donne une session de clown sur un week-end, par exemple, j'invite les participants, en premier lieu, à se positionner, à entrer sur scène, hein, sans nez rouge, sans rien, à entrer sur scène et à se positionner devant le public. Le clown qui a déjà fait des sessions ou qui n'a jamais pratiqué le clown entre en scène et je lui demande de rester là et de regarder chaque personne du public. Mais vous imaginez même pas l'émotion qui se passe. C'est incroyable.
Rien que de se positionner devant l'autre,
oser entrer, se positionner là, dire bonjour et regarder chacun dans les yeux. Mais il y a des gens qui pleurent parce que c'est une rencontre qui est dénuée de tout. Quand je disais nue, c'est nu, ça. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste cette rencontre. Et je pense que Jésus, dans les évangiles, c'est ça qu'il vit d'abord. C'est la rencontre. C'est être devant quelqu'un, face à quelqu'un, et puis le rencontrer en vérité. Et ce à quoi j'invite dans ces sessions de clown, c'est de rencontrer, que ce soit le public qui rencontre le clown, ou le clown qui rencontre le public, ou deux clowns qui se rencontrent l'un l'autre, c'est de se rencontrer d'abord en vérité. Et de voir qu'est-ce qui va se passer. Et pas d'être déjà dans une démarche de « je vais faire ça pour intéresser le public » ou « je vais faire ça pour jouer avec le public ». Non, c'est d'abord « je suis là, j'entre en contact avec le public » et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Et même si c'est dans une pièce où il n'y a rien, où il n'y a pas de bruit, il va se passer quelque chose. Et comment j'accueille ce qui se passe là avec le public ? Et là, il peut naître une relation qui est dénuée de tout le reste. Et pour moi, il y a quelque chose de profondément spirituel, parce que j'attends de l'autre qui me renvoie à quelque chose, et cette relation qui se passe là, elle est vraie. Et c'est le début de quelque chose.
Et il se passe toujours quelque chose.
Toujours, toujours quelque chose. Et c'est génial.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. La voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Gracias a la vida, merci à la vie, une chanson qui a été choisie par notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, Valérie Létoffé, alias Clown Kukuli. Quelle belle interprétation, hein.
C'est magnifique. Pour moi, cette chanson interprétée par Mercedes Sosa, elle dit merci pour tout, elle décrit toutes les raisons de dire merci. Merci, merci la vie, merci pour telle et telle chose. Et ça, c'est une prière.
C'est une prière, c'est vrai.
Prière. Hein.
En fait, tes remerciements s'adressent quasiment toujours à Dieu.
Oui. Mmh. Pour moi, Dieu a créé tout ce qui nous entoure. Donc si je dis merci, c'est d'abord à lui. Et si je dis merci à quelqu'un, ça n'écarte pas Dieu. Pour moi, il est présent dans tout ce que je vis. Donc, oui.
Il est tellement présent dans tout ce que tu vis d'ailleurs proche d'une communauté religieuse qui est bien connue en Suisse romande.
Oui.
C'est les Sœurs de Saint-Maurice.
Tout à fait.
Tu as pris un engagement qui est hors du commun, de peut-être de l'image de la religieuse qu'on a.
Oui.
Tu veux nous l'expliquer brièvement ?
Oui, volontiers. Alors, c'est un engagement, donc je suis oblate des Sœurs de Saint-Maurice depuis le 22 septembre de cette année. C'est un engagement qui est nouveau, hein, déjà. C'est quelque chose que les Sœurs ont mis en place cette année, qui répond à des besoins actuels en Église et puis
dans la société.
Mmh. Parce que c'est une façon d'être pleinement engagée. Donc, moi, j'ai pas fait des vœux. Mais j'ai fait des promesses, promesses d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Alors, obéissance parce que je décide de ne pas prendre des décisions par moi-même, mais de le faire en lien avec les sœurs et en lien avec les sœurs qui ont des responsabilités. Je trouve que c'est important d'écouter aussi ce que les autres ont à dire. Et puis, obéissance à dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, à ce que je pense Dieu attend de moi, ou à ce que je reçois comme mission à travers mon quotidien, hein, simplement dans tout ce que tu fais,
dans ton art du clown. Hein.
Tout à fait, bien sûr. Ouais. Et puis, donc, la pauvreté, c'est simplement une façon de vivre qui est dans le partage, qui est importante pour moi. Une façon de vivre dans la simplicité aussi.
Ce que tu vivais déjà avant de, oui. de par tes choix professionnels, tes choix
fait.
De vie,
oui, hein, tout
ton
à
orientation.
Tout à fait, oui. Et puis, la chasteté, alors c'est pas ce qu'on imagine. Hein.
Alors, on bien a sûr, besoin pas... de redécouvrir un petit peu ce
oui,
mot.
Oui, quand hein. on dit chasteté, on pense que c'est, bien sûr, que c'est absence de relations sexuelles, voilà. Mais il ne faut pas axer la chasteté uniquement là-dessus. La chasteté, c'est trouver la bonne distance avec la personne. C'est-à-dire que je peux vivre la chasteté dans un couple, je peux vivre la chasteté avec un enfant, avec ma famille, avec mes amis. C'est-à-dire apprendre à respecter l'autre et puis à trouver la bonne distance pour que chacun se sente respecté, libre et aimé, en fait. Hein, voilà, donc c'est ça la chasteté. Donc c'est, pour moi, c'est une belle promesse.
Ouais.
Voilà, donc je vis à La Pelouse, auprès des Sœurs de Saint-Maurice. J'ai une vie fraternelle. Ce qui différencie surtout l'engagement d'oblature et la vie religieuse, ben c'est cet aspect qui est non négligeable, hein, puisque ça fait, c'est une grande part de la vie religieuse, c'est la vie communautaire. Donc moi, je n'ai pas une vie communautaire avec des horaires, avec un engagement communautaire direct, mais je suis membre d'une communauté externe, c'est-à-dire que je fais partie de la communauté, mais je vis des horaires qui sont autres. Alors, je participe à des temps de prière.
Voilà, il y a des points de rencontre
fait.
De toute façon. Hein.
Bien sûr, oui. J'ai des temps de prière communs avec les sœurs, j'ai des temps de partage biblique, je participe, je mange avec elles par moment. On a le même charisme, on a une vie ensemble, mais je ne vis pas une vie communautaire. Mmh. Voilà, c'est un petit peu ça qui différencie l'oblate de la religieuse.
Oui, merci pour cette explication. C'est important hein, de montrer
oui.
que c'est aussi de nouvelles formes hein, qui
tout
s'ouvrent
à
tout un chacun maintenant
oui.
pour vivre de façon communautaire, plus riche, de façon plus en lien aussi avec la société actuellement.
Et puis je dirais, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que ce n'est pas moins ou plus. Parce que souvent, dans l'Église ou bien dans d'autres, ou dans la société, on est toujours dans des comparaisons.
Mmh.
Ça, c'est moins, ça, c'est plus, ça, c'est moins bien. Donc, t'es plus près de Dieu. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste une façon de vivre qui est différente. Et puis, c'est un appel. Pour moi, c'est un véritable appel. Hein. C'est pas juste une idée qui m'est passée par là. Ou parce que je veux pas être religieuse, ou parce que je me marie pas, que je veux être oblate. Non, c'est un appel, véritablement. Et puis... Et puis voilà, on n'est pas dans une comparaison, dans un ordre de mieux ou de moins bien, quoi. Ça n'a rien à voir.
On est toujours en compagnie de Valérie Létoffé, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. Valérie, on a bien compris hein, que le mot « relation » y compte énormément dans ton parcours,
oui.
dans tout ce que tu fais. Et il y a une relation qui est très importante pour toi,
oui.
c'est ton fils. Enfin, il est en train de devenir ton fils. Tu peux
Exactement.
Nous expliquer un petit peu cette relation-là ?
Oui. Alors Néo, c'est un jeune de 16 ans qui est d'abord mon filleul et puis que je suis en train d'adopter. Et dont j'ai l'autorité parentale depuis juin, qui vit chez moi et qui est très important pour moi parce que je pense que c'est Dieu qui m'a demandé de devenir sa maman. Et c'est une mission que j'accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Enfin, j'essaye de J'apprends, hein. J'apprends à être maman. J'apprends à trouver la juste position entre le fait d'accueillir un jeune de 16 ans, que je connais bien, bien sûr, puisqu'il il a passé toutes ses vacances chez moi depuis 6 ans. Mais voilà, c'est l'âge où un jeune se démarque, commence à se démarquer des parents. Et puis, ben, moi, je dois apprendre à, en même temps, le protéger, l'assurer d'une sécurité, de tout mon amour maternel, et en même temps, ben, de le laisser vivre. Mmh. Et c'est très proche de mon engagement d'oblate, parce que ça me demande, ben, je parlais de l'obéissance, ça me demande d'écouter, et puis je prie beaucoup pour que Dieu m'aide à être le plus ajusté possible. Alors, je fais des erreurs, des fois, je m'énerve, ou bien je fais des gaffes, et puis je demande pardon. J'essaie de donner un cadre rassurant et puis d'éduquer, hein, et puis de lui permettre de devenir une belle personne qu'il est déjà. Il est profondément beau et bon, et ce que je cherche, c'est à l'aider à développer tout ce qu'il y a de plus beau chez lui. Mmh. Voilà, donc c'est une belle mission au milieu de, bah, des sœurs aussi, hein, qui sont engagées aussi dans cet accueil, parce qu'elles le connaissent bien, ils les aiment beaucoup, elles l'aiment beaucoup, et puis c'est une belle forme de partage aussi, mmh, qu'on vit ensemble.
Oui, c'est une vie de famille en fait assez large. Hein.
Tout à fait, exactement.
Apprendre à devenir maman au sein d'une famille déjà existante,
oui,
pas forcément traditionnelle, mais totalement existante.
Tout, ouais, à fait, oui, mmh, ouais. C'est une belle aventure.
Alors Valérie, j'aimerais bien qu'on termine en fait cet entretien avec un autre aspect de ta vie dont on n'a pas encore parlé, mais qui pourtant est complètement en lien avec tout ce fil rouge qui nous a conduit, hein, dans cette découverte de qui tu es, la relation. C'est que tu as un élevage de chiens.
Oui.
Donc voilà, à la pelouse où tu vis, il, oui, y a les chiens.
Oui, il y a les chiens.
Et c'est une façon aussi d'être en lien avec les
tout
gens.
Tout à fait. Oui, c'est important pour moi parce que, bah, déjà, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les chiens. C'est des petits Yorkshire. Et l'élevage, bien sûr, hein, je gagne ma vie, il faut vivre, c'est sûr. Mais le but premier, c'est pas de faire du fric, en fait. C'est vraiment, bah, dans le respect de l'animal. C'est encore un outil pour être relié aux autres. Parce que la plupart des personnes qui viennent acheter un chiot chez moi sont des personnes soit d'un certain âge, soit des personnes seules, soit des familles qui n'ont pas pu acheter un chien depuis et qui en rêvent depuis longtemps. Et pour moi, c'est d'abord une rencontre avec des personnes. C'est un lien entre l'être humain et l'animal. Et puis, c'est aussi une façon de permettre à des personnes d'avoir un petit compagnon de vie. Et puis, bah, de discuter. Typiquement, quand des personnes achètent un chiot chez moi, on passe d'abord 2-3 heures ensemble autour d'un café ou d'un thé, et puis on discute, on fait connaissance, et puis j'essaye de répondre au mieux à leurs questions, et puis de leur dire aussi que après la vente, je suis là, et que s'il y a des questions, alors soit j'essaye d'y répondre, soit je leur donne les coordonnées d'un autre professionnel qui sera plus à même, hein, de répondre à des questions d'éducation, tout à fait. Mm-hmm. Et puis de leur dire aussi que, bah oui, ils ne sont pas seuls, et oui, c'est déjà arrivé que des personnes âgées me disent « Personne ne veut nous vendre un chien parce qu'on est trop vieux. » Et puis ça me fend le cœur parce que c'est d'abord ces personnes-là qui ont besoin d'un petit compagnon. Alors, je leur vends le chiot, mais en leur disant, par exemple, essayez de trouver une personne de confiance qui pourra s'occuper du chien s'il vous arrive quelque chose. Et puis de les mettre en relation aussi avec des associations qui s'occupent de recueillir et de placer le chien si la personne doit être hospitalisée ou s'il y a... Mais surtout... de faire en sorte qu'il y ait un entourage et que la personne, qui souvent déjà est seule, se sente moins seule avec son petit compagnon à quatre pattes et puis se sente aussi entourée de gens qui vont l'aider. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est une façon d'être un trait d'union. Alors ça, c'est un mot que j'aime énormément, c'est d'être un trait d'union, que ce soit par le clown, que ce soit avec les chiens, que ce soit en église, c'est d'être un trait d'union entre les uns et les autres. Voilà, ça c'est vraiment mon leitmotiv.
On te remercie infiniment, Valérie, d'avoir été en trait d'union avec nos auditrices et nos auditeurs indirectement, hein, vu qu'on ne les voit pas. Mais merci pour ce partage tout en authenticité, en vérité. Et on te souhaite bonne suite aussi
merci beaucoup.
Ta vie de clown coucouli, oui, comme dans ta vie de Valérie l'étoffée. De toute façon, ils sont intimement liés, ces deux. Hein.
Ah oui, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. L'un nourrit l'autre, je crois, et réciproquement.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci infiniment.
Un petit cirque a installé sa toile au cœur de la cité. Le magicien, comme un maître de bal, commence à répéter. Lance la terre au milieu des étoiles, dresse le chapiteau, trouve un soleil en fouillant dans ses malles, ajuste son chapeau. J'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter quelques scènes à peine imaginées. Les décors, les costumes sont un peu passés, mais ça pourrait bien vous arriver. Des bateaux venus de Chine nous ont apporté quelques tonneaux d'encre et du papier. Les Pierrots, les Colombines et même un Arlequin sont venus demain, mais jouent pour rien. Un orage a prêté ses plus beaux éclairs pour illuminer la ville entière. Pour un bal sans égal dans la nuit des temps où sont invités les habitants. Si le temps nous accompagne comme il l'a promis, nous verrons les clés du paradis. Rapporté en taxi de la galaxie à 1000 années-lumière d'ici. Décor idéal pour une aquarelle originale jaillira du chapeau de Monsieur Loyal au moment le plus sentimental. Tous les anges et Lucifer, prévus au dessert, apportent un gâteau d'anniversaire qu'on verra de la terre comme une étincelle arriver de l'autre bout du ciel. Carnaval sans rival, la réalité, le hasard et la fatalité nous préparent dans le noir une éternité qu'il vaut mieux ne pas imaginer. J'ai l'honneur, l'avantage de vous inviter dans un univers à mon idée. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est inventé. Et si vous voulez bien m'accompagner. Fermer ses lumières, plier son chapiteau. Il a laissé ses images en arrière, dans nos cœurs bien au chaud. La caravane a repris le chemin des rêves et des chagrins. Tout est rangé dans les malles en rotin du petit magicien.
Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch.
Sur radio-r.ch.